podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse-Jean Jaurès qui vous propose de tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. Je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et ensemble nous allons donc passer 12 minutes en tête à tête avec une chercheuse aujourd'hui. Bonjour Aline William.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences en arts et philosophie à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, chercheuse donc au sein de l'équipe de recherche sur les rationalités philosophiques et les savoirs, ERAFIS, et vous avez été nommée par le prestigieux Institut universitaire de France, l'IUF, qui soutient les chercheurs dont il estime exceptionnel et remarquable la qualité de leurs recherches. Vous êtes donc, comme on dit, lauréate de l'IUF pour le projet que vous menez actuellement, qui est intitulé « Résister à la sidération, deux points, apport de l'esthétique philosophique aux humanités écologiques ». On va donc parler de notre rapport au monde tel qu'il est, c'est-à-dire bouleversé par le changement climatique et forcément bouleversant pour les humains que nous sommes. Mais Aline William, que vient faire justement la philosophie dans l'écologie? Depuis quand la philosophie se mêle-t-elle d'écologie même?
Alors, vaste question. Selon la manière dont on prend le problème, on pourrait se dire qu'elle s'en mêle depuis très fréquemment quand les premières manifestations très fortes, hein, les méga-feux, etc., du réchauffement climatique sont apparues. Mais d'une autre manière, on peut dire que la philosophie a toujours eu maille à partir avec les questions d'écologie. Parce que la philosophie, c'est pas juste une discipline académique dans sa tour d'ivoire qui disserte déconnectée du monde. En fait, la manière dont nous représentons la nature, est-ce que l'homme fait partie de la nature ou est-ce qu'il est extérieur à la nature et est-ce qu'il doit la dominer? Tout ça, ce sont des questions qui traversent tous les textes de philosophie, en tout cas de la philosophie occidentale et même au-delà, avec des réponses différentes. Mais toutes les réflexions qu'on peut qualifier de philosophiques sont traversées par des enjeux écologiques depuis que les humains pensent et jugent que la pensée, c'est important, ça a des effets en fait. C'est pas, la pensée a des vrais effets concrets. Selon que vous estimez que la nature, c'est purement inerte et c'est de la matière qui ne pense pas, bah vous allez pouvoir vous donner l'autorisation de la dominer, de la massacrer complètement, pourquoi pas. Donc les idées philosophiques ont toujours eu des effets sur notre monde tel qu'il va, effectivement. Donc, il est important
de... Et comment on se le représente, donc, manifestement?
Exactement.
Les représentations, par exemple, à travers les arts et l'esthétique, puisque c'est votre spécialité, c'est au cœur du projet sur la sidération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien?
Mais c'est un lien assez direct. Il y a d'une part nos idées qui façonnent notre monde et qui ont des effets concrets, réels, tangibles sur le monde, hein, qui ne sont pas juste des concepts qui viennent après coup d'écrire, mais qui vraiment agissent sur le monde. Mais c'est pareil, en fait, avec toutes nos représentations, pour le dire vite, artistiques et para-artistiques, hein, que ce soit les photographies de presse. Il y a eu toutes des luttes, pour le coup, d'associations écologiques pour demander que les articles de presse sur les canicules, par exemple, ne soient pas illustrés par des enfants en train de s'amuser comme des petits fous dans des fontaines, mais pour marquer la gravité, en fait, de ce dont on parle dans les canicules récentes. Et au niveau artistique aussi, les récits, les images que nous, alors selon les cas, consommons ou admirons ou contemplons, façonnent notre regard sur le monde. On note par exemple un grand succès qui m'intéresse beaucoup ces dernières années, voire décennies, pour le genre apocalyptique et post-apocalyptique.
Vous pouvez juste nous préciser ce que c'est que ce genre?
Mais c'est,
pour ceux qui ne connaissent pas.
Tous les récits ou les représentations cinématographiques, en série, en manga, que sais-je, de la fin du monde, fantasmée évidemment. Hein. Généralement, c'est une fin brutale qui arrive d'un coup et puis il reste quelques humains survivants. Et ça, c'est le post-apocalyptique, hein, c'est ceux qui restent après. Donc, au niveau des représentations artistiques et para-artistiques, pour vous répondre sur angle, celui du grand succès des fictions et des représentations apocalyptiques et post-apocalyptiques aujourd'hui, on voit qu'il y a tout un travail à faire parce que ça joue sur nos imaginaires, ça joue sur la manière dont on va s'engager ou non à essayer de lutter pour que ce monde-ci reste encore vivable et pas un fantasmatique monde post-apocalyptique qui est bien trop simple, en fait, par rapport aux enjeux réels extrêmement présents auxquels on fait face tous les jours.
Alors justement, il y a un mot quand même dans l'intitulé de votre recherche qui est important, c'est sidération. Parce qu'évidemment, face à tout ce qui se passe au niveau climatique, on se sent tous plus ou moins impuissants face aux désastres qui s'annoncent, si j'ose dire. Quel est le rôle, quel rôle du coup peuvent jouer les arts et la philosophie face à cette sidération?
Oui, alors c'est effectivement le phénomène sur lequel je voulais travailler le plus, mon hypothèse de recherche pour mon projet à l'Institut universitaire de France. C'est vraiment que nos réactions face aux catastrophes en cours et à venir qui constituent pour nous notre expérience vécue du réchauffement climatique, c'est souvent une réaction de sidération, c'est-à-dire d'incapacité à agir, d'être complètement débordé face à l'ampleur de ce qui est en train de nous arriver et d'être soit dans un sentiment de pure impuissance, soit dans cette espèce de contemplation un peu morbide que j'évoquais tout à l'heure, où on préfère désirer la fin que de mettre les mains dans le cambouis et faire face à ce qui peut être réparé et ce qui peut être fait
maintenant. C'est moins compliqué.
Mais oui, c'est ça. mais donc, c'est pour ça, ça m'intéresse, cette ambiguïté de la sidération, le fait qu'on peut s'y complaire. Et là, la philosophie et l'art, et l'enquête plutôt artistique, ont beaucoup à jouer. La philosophie, parce que c'est une discipline qui analyse les affects, qui analyse comment les représentations nous affectent, ou nous rendent insensibles, en fait. Il y a des spécialistes de ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités écologiques, donc toutes les sciences humaines et sociales qui s'intéressent aux questions d'écologie, qui disent notre insensibilité par rapport à l'extinction de masse actuelle, généralement, la plupart des gens, ça les empêche pas de dormir. On sait, on est en train de vivre une extinction de masse, ça nous empêche pas de dormir. Cette insensibilité, c'est pas un fait naturel. C'est un construit. C'est pas un construit conscient, mais voilà, notre société, nos repères, nos catégories se sont construits de telle sorte que on peut vivre en temps de désastre et de dévastation écologique et ça nous empêche pas de dormir. Et là, la philosophie, évidemment, peut intervenir dans l'enquête de comment cette insensibilité a été construite et comment y résister. Et pareil pour les arts. Les arts, c'est le lieu de la sensibilité. Et donc, il y a des formes artistiques qui y participent à la sidération, qui joue là-dessus. Pas tous, on va pas être... Mais certains blockbusters qui jouent sur des représentations terrifiantes de la destruction peuvent participer de cette sidération. Pas tous, hein. Il y a des films hollywoodiens qui peuvent montrer la destruction de manière beaucoup plus fine que ça. Mais donc, en art, il y a aussi cette question-là qui se joue. À quelle réaction sensible, sur quel ressort telle ou telle pratique artistique vient appuyer. Et moi, ce qui va m'intéresser dans mes recherches dans les prochaines années, ce sont les artistes chercheurs, ceux qui mènent des enquêtes écologiques sur le terrain, n'ont pas de forme préétablie, ne savent pas déjà si ça va donner lieu à un dessin, un film, un récit, mais selon ce que leur enquête écologique donne comme résultat, vont inventer petit à petit des formes, parfois participatives, qui nous mettent au travail, quoi, qui ne nous présentent pas une image parfaite, achevée, de comment se représenter le monde, mais qui nous invitent tous à enquêter avec eux, en fait, sur qu'est-ce qu'on fait avec le problème dont ils sont saisis.
Alors, vous m'amenez justement à la question, concrètement, comment vous travaillez justement sur ce projet? Parce qu'il y a un volet, on le comprend, dans ce que vous venez de dire, collectif, avec des artistes, qui est important.
Tout à fait, et à un double niveau, en fait. Il y aura d'une part un travail, je travaille déjà avec des artistes engagés dans ce qu'on appelle la recherche-création, donc la production à la fois d'un travail de recherche sous forme d'articles scientifiques, de thèses pour ceux qui sont en doctorat, et une production artistique, et l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye beaucoup de mettre en avant à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, notamment dans l'école doctorale Alpha. Il y a un séminaire structurant recherche-création pour valoriser cette approche-là qui est très spécifique. Une approche qui combine l'art et la théorie en disant, c'est les deux, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, je travaille déjà avec des artistes qui sont dans ce type d'approche. Et je vais continuer à le faire parce que, c'est eux qui vont me donner mon matériel avec lequel penser. Et je vais travailler avec eux. Évidemment, ils sont notamment intervenus, certains d'entre eux, dans la semaine d'hommage à Bruno Latour qui a eu lieu en octobre. Et par ailleurs, mon projet comprend aussi une phase...
Participation citoyenne.
Participation citoyenne, exactement. Qui là va aussi être menée avec des artistes. Il s'agira d'ateliers qui donc ont été, qui s'appellent Où atterrir, qui ont été influencés, qui ont été pas seulement influencés, mais pensés, conçus par le philosophe et sociologue, notamment des sciences, Bruno Latour et ses équipes. Et qui vise à rassembler un groupe à chaque fois de 15 à 20 citoyens et citoyennes qui vont enquêter sur leur terrain de vie, sur une entité qui, pour eux, est vitale, mais qui est menacée sur leur terrain de vie. Elle n'est pas forcément écologique au départ, cette entité. Hein. Ça peut être l'accès à l'eau, mais ça peut aussi être avoir du temps pour penser, pour parler de mon entité et de ma propre enquête. Ça peut être des questions d'endométriose, on en rencontre souvent dans ce type d'enquête. Mais on en arrive toujours à des questions écologiques, parce que quand on commence à déplier pourquoi telle entité est menacée, pourquoi j'en ai besoin, de quoi elle dépend, qu'est-ce qui la menace, ben on en arrive à cartographier nos territoires de vie de manière beaucoup plus nuancée et complexe que si je vous demande à brûle-pourpoint comme ça, de quoi vous avez besoin pour vivre. Et là, on se rend compte que on sait plus en fait, on ne sait plus se situer comme le faisait, pour reprendre un exemple de Bruno Latour, un paysan du XVIIe siècle. Si vous lui demandiez qu'est-ce qui garantissait sa vie, il pouvait tout vous montrer du doigt. Il pouvait montrer l'eau de la rivière, le bois dans lequel on va aller récupérer justement du bois pour se chauffer, les champs qu'on est en train de cultiver pour avoir de quoi se nourrir. Aujourd'hui, ce dont on dépend pour vivre, et encore plus pour bien vivre, pour vivre des vies qui valent d'être vécues, c'est compliqué. Là, je suis en train de vous parler dans un micro, je ne sais absolument pas où ces composants ont été... Mais on dépend de réseaux qui sont complètement invisibles, et le but de ces ateliers d'enquête citoyenne, c'est d'arriver à se réapproprier son territoire de vie, comprendre de quoi on dépend, et savoir mieux le défendre, du coup. Le territoire de vie devient une zone à défendre, mais parce qu'on sait...
En connaissance de cause.
Exactement, ouais. Parce qu'on sait précisément qu'est-ce qui le soutient, ce territoire, d'où ça vient, à quoi on tient, à quoi on est prêt à renoncer pour pouvoir vivre avec les territoires des autres aussi. Hein. On a tous des entités vitales, mais encore faut-il pouvoir composer ensemble ensuite. Mais donc, c'est le but de ces enquêtes citoyennes qui, on l'espère, parce que je collabore avec... avec des metteurs en scène et comédiens et artistes sur ce projet. Donc, on demande des subsides aussi. Hein, mais donc, on espère que ces enquêtes pourront se tenir en 2024-2025 au Quai des Savoirs. Cette année-ci, on va faire des résidences de recherche-création entre nous pour mettre en place le projet. Et là, vous voyez, justement, je vous parle de choses qu'on pourrait dire théoriques et techniques, finalement. Il faut apprendre à se situer et à dire de quoi on dépend. Mais... c'est un travail avec des artistes parce que c'est une question de sensibilité. Pour bien répondre aux questions de quoi dépendez-vous, à quoi tenez-vous, qu'êtes-vous prêt à faire pour défendre ce à quoi vous tenez, il faut aussi jouer sur nos modes de sensibilité. On a besoin de faire appel aux outils des arts pour convertir notre regard, pour regarder les choses d'une autre manière. Mmh. C'est une enquête que... seul en tant que philosophe, je ne peux pas encadrer. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant de l'encadrer avec des artistes qui vont travailler directement au niveau de la sensibilité du corps, de la voix, de comment on dit, comment on met en corps nos problèmes et ce à quoi on tient.
Et j'imagine qu'à partir de là, Aline William, on pourra élaborer des solutions éclairées. Et pour paraphraser Bruno Latour, justement, peut-être identifier les affects, on pourra du coup redéfinir les enjeux. C'est ça.
C'est ça. Le travail de Bruno Latour, pour simplifier, on va dire, les 10 dernières années de sa vie ont très clairement été dédiées aux questions écologiques et à ce que les sciences humaines et sociales et les arts pouvaient faire face aux... évidemment, en discussion avec les sciences du vivant, mais qu'est-ce que les arts et les sciences humaines et sociales peuvent apporter vitalement à cet enjeu, à ce défi qui est celui de notre temps. Hein. Et pour Bruno Latour, c'était une question d'affect. Il disait même en politique, on ne sait plus exprimer nos affects. Enfin, on est dans un dialogue de sourds, mais comment exprimer, comment donner toute leur place aux affects politiques pour arriver à ne pas seulement être dans la contestation ou ou dans le désespoir face à l'inertie totale des gouvernements, ou dans la contestation totale qui dit bah, « il faut renverser le système », en attendant que le système n'est pas renversé, on ne fait absolument rien, bah, la réponse de la Tour, c'est « il faut travailler sur les affects politiques, chacun à notre niveau ». Et puis finalement, bah, l'idée, c'est quand même de s'assembler et de faire collectif aussi, mais un collectif qui est plus fort du fait de ne pas avoir négligé ses affects.
Aline William, il y a une tradition sur On Air, c'est de terminer la discussion en demandant à l'invité une référence, livre, vidéo, roman graphique, ce que vous voulez, conférence, atelier, à conseiller donc à celles et ceux qui nous écoutent sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Quel serait le vôtre ?
Alors, je vais tricher un peu tricher. En me parant de la double casquette philo et art, pour le coup. Donc, en référence, comme on a mentionné Bruno Latour, je conseillerais son petit livre, Où atterrir, qui a été écrit avant qu'il mette en place le dispositif, mais qui se veut relativement grand public. Donc, bon, c'est pas à mettre entre les mains de votre petit-neveu de 7 ans non plus, mais c'est accessible plus que d'autres livres de Latour, et ça parle directement d'écologie et de politique, avec certaines thèses polémiques, mais pourquoi pas, allons-y, allons dans la polémique. Et en art, comme je parlais justement de cette ambivalence, notre fascination pour la fin du monde, je conseillerais bien le film Mélancolia de Lars von Trier, qui nous montre une destruction parfaite et totale du monde, et ça a été le point de départ en fait de mon projet et de ma réflexion sur le sujet, parce que j'adore ce film. Et pourtant, j'adore un film qui nous fait aimer et trouver magnifique la destruction totale du monde et l'impossibilité que quelques formes de vie continuent encore.
Mais c'est une vision d'un artiste.
Exactement.
Un grand merci, Aline William, d'avoir accepté notre invitation sur On Air.
Merci à vous.
On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'image et du numérique de l'UT2J, réalisation Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'université, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'université. Vous pouvez bien sûr retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J ainsi que sur les plateformes numériques. On Air.